écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
malgré ce qu'elle pense. Qu'elle soit heureuse et entourée de douceur. Elle fait toujours la nuit des cauchemars terribles, des cauchemars qui la réveillent en sueur. Elle pense toujours de temps en temps à Frédéric. Elle sent aussi que si elle n'était pas si lasse, elle aimerait c'est partir. Oui, partir. Partir droit devant elle. Mais non, elle ne le peut pas, parce que ça ferait de la peine à son père. Les jours passent, mange de plus en plus, marche dans le parc, va de mieux en mieux. Elle commence à s'ennuyer d'être toujours enfermée. Le beau docteur, un matin, après l'avoir ausculté, dit au père : votre fille va tout à fait bien. Maintenant, il va falloir c'est la distraire un peu. La sortir. Qu'elle voie du monde. Surtout, qu'elle voie du monde et qu'elle aille en ville. Il faut qu'elle se réhabitue à la foule. Bien entendu, elle pourrait sortir en voiture. Elle est restée trop longtemps confinée ici. Bien. Elle sortira l'après-midi. Tu veux bien, Florence?
Oui, père. Je veux bien.
Et l'après-midi, accompagnée de la gouvernante, elle sort bien habillée. D'ailleurs rouge, parce que c'est l'automne. Elle est heureuse de quitter la propriété. Avenue Floch, cela peut aller, parce que l'avenue est calme. Mais lorsqu'elle approche des grands boulevards, le bruit, les voitures, la foule, elle a perdu l'habitude. Alors la gouvernante décide d'aller au jardin des Tuileries, c'est moins bruyant. Là, elles vont jusqu'au Louvre. Traversent le Louvre et vont jusqu'à l'avenue de l'Opéra qui se trouve de l'autre côté du Louvre. Et sur le chemin du retour, elles vont prendre un café dans une brasserie. Un jour, son père l'a fait mener chez couturier pour qu'elle puisse changer sa garde-robe. Elle y va accompagnée de sa gouvernante. Elle a l'ennui de choisir des robes, tailleurs, manteaux, chaussures, etc. Son père veut même qu'elle ait des robes de soirée. Elle lui demande
« Mais pourquoi, père? Nous ne recevons personne. »
« J'ai décidé, c'est que tu sortes peu. Tu es largement en âge de voir du monde. »
Elle lui dit « Tu sais que j'aime pas les gens. » Et que je les aime d'une façon simple, et que je déteste toutes ces choses.
Il lui dit, tu es la fille de ton père. Tu dois être, tu te dois, c'est de t'habituer à recevoir et à être reçu à ces choses. J'ai un rang à tenir, tu comprends. Et je n'ai que toi. Si ma femme était là, tu dois la remplacer pour ça. Il faut. Tu dois le faire pour moi.
Bien, père, je le ferai.
Puis, tu verras, je n'étais pas si ennuyeux que ça. Et si un jour, tu veux te marier, il faudra bien passer par là pour rencontrer un jeune homme bien.
Pour ça, j'ai bien le temps.
On croit qu'on a toujours le temps, mais le temps passe vite. Et puis, tu sais, je ne serai pas toujours là.
Elle lui dit, mais c'est encore bien jeune, j'ai le temps, père.
Mais je peux, il faut penser dès maintenant à l'avenir.
Elle lui demande, en parlant d'avenir et mes études,
tu en as assez appris comme ça. Maintenant, il te faut apprendre à tenir une maison.
Mais je ne veux pas être une femme d'intérieur.
Que veux-tu faire?
Décoratrice.
Mais une décoratrice est une femme d'intérieur qui s'occupe de l'intérieur des autres. Toi, tu feras la même chose, mais pour toi.
Elle est déçue qu'il voie les choses comme ça. Lui dit, mais... ça. J'aimerais bien y avoir un métier et être plus indépendante.
Ne fais pas de soucis pour ton indépendance, ma chérie. Tu as bien suffisamment pour dépendre de personne.
Et l'embrasse sur la joue. Les jours passent et continuent comme ça. Ils sortent pour les couturiers, promenades. Florence commence à s'ennuyer. Les boucons maintiennent dans sa chambre ou dans le parc. Des livres bien faits, comme ceux d'Éric Jourdan. C'est pas un romancier pour femmes, mais elle aime sa force, la force de ses romans. Des livres de Michel Schutter.
Un soir, son père lui demande.
Il faut te préparer. Nous sommes invités à une soirée chez un de mes amis.
Je suis pas obligé d'y aller.
Pour me faire plaisir et me rendre service. Tu veux bien aller avec moi, ma chérie? Tu verras, tous les hommes viennent accompagnés. Alors fais plaisir à ton papa. Et puis, ce n'est qu'une soirée.
Bien, c'est chez qui?
Un gros industriel, Monsieur Viguez, un charmant. Monsieur, il fabrique des choses pour l'aéronautique, des appareils de mesure de très haute précision.
Elle lui demande, et on est à faire avec lui?
Un peu, oui. Mais il a beaucoup de relations dans le gouvernement et les banques. Et puis, je l'aime bien. il est très simple. La soirée va se passer du côté de Versailles, dans une propriété. Tu verras, ce sera agréable. Tu verras, ce sera très bien.
Cela ne l'enchante pas du tout d'y aller. Mais elle veut faire plaisir à son père, qui est si bon pour elle. Le jour de la soirée arrive. Elle se dit, déjà, il faut se préparer. Elle passe sa journée à se préparer. Choisir parmi toutes ses robes, celle qui ira le mieux. Sans compter les chaussures, accessoires, etc. Bien entendu, comment se coiffer. Elle décide, c'est d'y aller le plus simple possible. L'élégance se trouve dans la simplicité. Et puis, elle est jeune, elle n'a pas besoin d'artifice. Lorsqu'elle va rejoindre son père dans le hall d'entrée, pour partir, elle porte une robe toute simple, longue et blanche, les cheveux tombants, un petit collier discret en or, une petite montre de chez Cartier minuscule. Petite pochette blanche, dans le même tissu que la robe. Arrivée vers son père, qui était lui, il lui dit, tu es délicieuse, beaucoup de goût. Merci père, comment te sens-tu? Très bien, je te fais guérir. En réalité, elle se sent toujours un peu vaseuse, mais elle ne veut pas l'ennuyer. Elle ne veut pas l'ennuyer. Le chauffeur leur ouvre la portière de la Rolls et rentre dans la voiture. Et il la met en route. Il est 21h. Son père lui dit, c'est ta première soirée, ta première vraie soirée. Elle lui dit, ça ne m'enchante pas. Tu vas rencontrer des jeunes gens charmants. Monsieur Vidiès, il est très gentil et sérieux. Sûrement trop vieux pour moi. Pas si vieux que ça. Ils sont dans les rues de Paris, tout illuminées, son père lui dit. Si tu me permets, j'aimerais s'ouvrir. Sentir l'odeur de la ville. Elle lui dit, oui, bien sûr, fais-le. Le père ouvre la vitre et l'on entend le bruit de la ville. Son père lui dit, j'adore cette ville, c'est notre ville. Je suis très heureux que les Jeux Olympiques se passe pas ici. Ils auraient dû figurer toute la ville avec eux. C'est le beau quartier. Ils auraient été obligés de faire. Et puis ça aurait coûté très cher. Le pays qui organise ces jeux font toujours cela avec du déficit. Il faut des années pour s'en remettre. C'est des gens comme nous, le président de la République, qui ont demandé que Paris ne soit pas choisi. Il l'a fait en cachette. Bon, il y a raison. Le peuple est naïf, il ne comprend rien. Il n'a pas de goût. Et sourit, il dit, vous avez eu raison, père. Et monsieur Pidiès faisait partie de ceux qui ont fait en sorte à ce que Paris ne soit pas choisi. Oui. Et rit. Il s'intéresse déjà à lui. Elle lui dit, non, c'est juste par curiosité. Et il rit tous les deux. Arrivés sur les lieux de la soirée. Elle se passe dans une grande propriété dans les environs de Versailles, au fond d'un parc. La maison, une vieille maison, grande, de 3 étages, de style Napoléon III, terrasse sur le devant. Le parc a des arbres centenaires très touffus. Lorsqu'ils arrivent, on entend le bruit de la soirée. Le portail de la propriété est ouvert, mais des gardes armés, habillés en costume noir, gardent l'entrée et demandent des cartons d'invitation. Il y a devant de la propriété un parking aménagé. Une fois sortis de voiture, le père et la fille se dirigent vers la maison. Florence lui dit, il y a déjà beaucoup de monde. Oui. Elle lui dit, ça nous permettra de dire bonsoir et de nous en aller comme ça, sans personne ne s'en rende compte. Il lui dit, ce n'est pas très chic, viens. Dans le parc, il y a des gens en tenue de soirée. On les regarde passer. Certains se disent, quel est ce vieux avec cette fille ? C'est sa maîtresse. Au fur et à mesure qu'ils approchent de la maison, ils entendent de plus en plus le bruit de la soirée. La musique attourdissante, la foule. Lorsqu'ils entrent dans la maison, ils sont surpris par la foule, la lumière, le bruit, la chaleur étouffante. Père lui dit, tiens, nous allons voir le maître de maison, il me semble le voir. Elle lui dit, tu crois que l'on peut rester là-dedans? Nous trouverons bien un endroit plus calme. Allez, viens. Ils cherchent le maître de maison. Monte à l'étage. Enfin, le père le trouve dans un des salons. Il voit un jeune homme dans les 30 ans, à peu près, de taille moyenne, de visage agréable, cheveux châtains. Le père et la fille vont à lui. Le père dit, monsieur Vidiès, je vous présente ma fille. Le jeune homme sourit et dit, Elle est délicieuse. Vous avez bien fait de la faire venir. Vous vous nommez comment ?
Le père dit Florence.
Quel nom délicieux. Moi, c'est simplement Alain. Tout simplement. Venez, allons prendre un rafraîchissement.
Et il les mène au buffet pour qu'ils prennent des boissons. Des serveurs servent les invités. Ils prennent tous les trois une coupe de champagne. Le père dit à Monsieur Vidiez.
Il y a du monde.
Oui. Je fais une soirée une fois par an. J'invite tout le monde, comme ça je suis débarrassé. Mais je ne dis pas ça pour vous. Vous, vous êtes un ami. Florence regarde son père surprise. Le père lui dit, je connais ce jeune homme depuis toujours. Et avant lui, son père. T'en ai pas parlé. Parce que... ça me gênait un peu. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Pour moi, c'est un peu comme mon fils. Ses parents sont morts lorsqu'il était tout jeune. Et je l'ai suivi. J'aurais aimé avoir un fils comme lui. Alors, tu comprends, il est un peu comme le mien. Laurent se sent triste et même jalouse. Son père aime ce garçon comme son fils. Il lui dit, ne sois pas triste. Que je t'aime. Oui, mais je suis comme votre fille. Hélas, il embrasse sur le front et lui dit,
ne sois pas bête lorsque tu connaîtras mieux ce jeune homme qui appréciera aussi.
Il se sent gêné et n'ose pas se retirer.
Tout d'un coup, le père se sent poussé et se retourne.
Un homme d'un 55 ans, grand, mince, cheveux blancs, visage sympathique, lui dit,
excusez-moi, je vous ai poussé, mais c'est la foule. Ce n'est rien. Mais je vous connais, vous êtes monsieur de Bruxelles.
Oui,
moi c'est Fontaine, vous savez, les arts.
Ah,
justement, j'avais à vous parler.
Eh bien, me voilà.
Et ici l'homme.
Laurent se trouve l'amour toute bête à côté d'Alain qui lui dit
comme la pluie et l'oubli comme l'écrit.
Et bien voilà, votre père est pris.
Je t'aime tant, je t'aime.
Il lui demande, je peux vous mener lancer.
Je
suis pas très experte. Ça n'a pas d'importance. Venez. Laissez vous guider, vous laisserez guider.
Il l'emmène lancer.
Tout en dansant, il lui demande. J'espère que ça vous a pas ennuyé, que tout votre père. Et lui dit, non, surtout, parce que je n'avais jamais entendu parler de vous. Et lui dit, moi non plus de vous. Votre père est un petit cachotier. Et il sourit et dit, c'est pas très grave. Mais comme tous les hommes, cherche son double, ou le double qu'il a été, c'est-à-dire un autre enfant et un jeune homme pour l'éduquer. Avec une fille, c'est pas la même chose. Le monde féminin restera toujours un mystère pour un homme, même si la fille est sa fille. Enfin, vous voyez, je comprends. Lorsque je suis devenue une jeune fille, d'après ma gouvernante,
demande à Jason de venir.
Il paraissait gêné. Il n'osait plus me regarder. Et il lui dit, c'est très touchant. Elle lui dit, oui, je suppose que tous les pères agissent comme ça. Et Alain lui dit, même quelquefois, avec leur fils, mais très vite, entre le père et le fils, il y a des... disons, des rapports de force, chacun cherche à préserver son territoire. Et on lui demande, comment savez-vous tout ça?
Dire, il paraît,
vous n'avez pas eu de parents. et lui dit parce que j'ai beaucoup lu là-dessus. Mais parlez-moi de vos parents. Vous êtes délicieuse, vous savez. Elle rougit, lui dit merci.
Mais excellent foi.
Autant vous dire de suite, j'ai eu un grave accident et je suis très fragile. Je ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un. Enfin, je le crois. Je suis beaucoup trop fragile. J'ai la tête dans du coton à cause des médicaments qu'on me donne. Il lui dit, je l'en vrai, mais cela ne change rien. On peut se voir.
J'ai promis de retrouver
et
quelqu'un.
Je saurais attendre votre rétablissement.
Excusez-moi, j'aurais aimé rester, mais je me sens.
Je porte malheur à ceux que j'aime. Il lui dit, c'est ridicule, je ne crois pas à ces choses. Vous êtes bourré de complexes. Ce qu'il vous faut, c'est vivre simplement, sans vous poser de questions. Faites du sport, dépensez-vous. Vous êtes trop replié sur vous-même. Sortez avec moi. Il lui dit, nous connaissons à peine. Il lui dit, nous aimons tout de même. Les deux, la même personne. Et puis, je vous trouve délicieuse. Papa va la faire danser, la mène, s'asseoir dans le coin du salon. Lui demande, vous voulez voir quelque chose? Elle lui dit, oui, merci. Du champagne? Ou plutôt un jus de fruits. Et se retire. Et se retrouve seul, essaye de voir si elle ne voit pas son père. Mais non, il a disparu. Elle est triste. Arrive à elle un jeune homme d'un 22 ans, grand masse blond, maîtresse du visage fin, mais un peu froid. Il a un léger sourire, yeux bleus. Très élégant. Lorsqu'il est en face d'elle, elle ne peut s'empêcher de le trouver délicieusement beau. Lui demande, mademoiselle, voulez-vous danser? Elle lui dit, je ne peux pas. On est allé me chercher une boisson. Et lui demande, qui? Une vieille tante? Non, un jeune homme. Et il dit, eh bien, c'est encore mieux. On ne peut pas être impoli avec une vieille personne, mais un jeune homme. Ça la fait sourire et lui dit, vous avez un sacré culot, vous. Il lui dit, il le faut bien pour avoir le privilège de danser avec une si jolie personne. Elle lui dit, merci. Et il demande, alors, venez danser. Elle lui dit, je peux. Il lui dit, mais votre ami comprendra. Et puis, c'est que danser, venez. Et soupire, elle lui dit, bien. Et elle le suit. De choses pour que la destinée d'une personne change. Si elle était restée bien sagement à sa place, peut-être que son avenir aurait été fait avec le bon Alain. Et là, elle a choisi peut-être le diable qui l'a fait entrer en enfer. Oui, peut-être. Lorsqu'Alain revient, il voit la chaise vide. Avec un inconnu. Il se dit qu'elle est bien impolie et frivole pour une personne qu'il croyait sérieuse. Tant pis, il boit le jus d'orange. Voilà comment se fait une réputation. Tout un ensemble de jeunes hommes lui dit, je m'appelle Edmond. Elle lui dit, moi Florence. Vous êtes très belle, vous savez. Elle le trouve délicieusement beau. Alors, elle ne lui parle pas de son accident, ni qu'elle porte malheur. Elle aurait trop peur de le perdre. Il lui demande, que faites-vous dans la vie? Elle lui répond, rien. Il lui dit, alors, vous avez tout le temps de me voir? Et ils passent la soirée ensemble. Il lui dit qu'il vit chez son père. Que son père est industriel en produit du cuir, maroquinerie, chaussures. Et a aussi une compagnie téléphonique. que lui poursuit ses études de physique comme ça. Elle est tellement éblouie par lui qu'il pourrait lui dire n'importe quoi que ça n'a aucune importance. Il a un regard inoptique et tellement beau. Lui est ému par elle. Il lui pose des questions sur elle. Elle lui dit tout, sauf sa dépression. Lorsque la soirée se termine, les invités commencent à partir et lui demandent
« Je vous raccompagne ?»
Elle lui dit « Non, je ne peux pas, j'ai mon père. »
Nous nous reverrons.
Elle ne sait pas quoi dire. Elle se sent plus libre.
Alors elle lui dit « Je ne sais pas. »
Paniquée, elle se retire. Et retrouve son père qui l'attend près de la voiture. Son père sourit et lui dit « Viens ». Elle le suit. Une fois dans la voiture, son père lui demande
« Passez une bonne soirée ».
Elle lui dit
« Oui, très bonne ».
Il lui dit
« C'est très bien, j'ai bien fait de te forcer à venir ». Et Alain,
et surprise, elle a complètement oublié Alain. Elle lui dit,
oui, Alain.
Il lui demande,
alors.
Elle lui dit,
je ne sais pas.
Elle lui dit,
tu as le temps.
Edmond est triste et tout excité. Il n'a pas l'habitude d'être triste comme ça. Et puis, il l'a trouvée délicieuse. Il se dit, merde,
je l'aime, c'est idiot.
Je sais même pas qui elle est.
Soupire, baisse la tête.
Voit ses pieds la pochette de Florence qu'elle a fait tomber et oublier. Il sourit, se dit,
la chaussure de Cendrillon.
Prend la pochette et l'ouvre. Pas grand chose. Un mouchoir, tube de rouge à lèvres, peigne, un tampon et un portefeuille. Il ouvre et voit sa carte, son nom, adresse et tout. Il est heureux, il peut la revoir et sort de la soirée avec la pochette. Il va prendre sa Ferrari rouge de tourisme pour rentrer chez lui, enfin chez son père, et met la voiture en route. Il est content, mais se demande s'il l'aime. Et pourquoi aime-t-il cette fille et veut-il la revoir? Peut-être est-il amoureux, ça lui fait peur. Il est arrivé chez son père qui habite une grande propriété aux environs de Paris, au fond d'un parc. Lorsqu'il entre dans sa chambre, il est tout excité. Après avoir pris un bain, il se couche. Se met sur le ventre la pochette sur la table de nuit, dort d'un coup. Fait des rêves délicieux où il voit la jeune fille. Les choses étranges, cela ne l'excite pas sexuellement. D'habitude, lorsqu'il rêve à une jeune fille, il est dans tous ses états, mais là rien. Il veut seulement la revoir, voir son sourire. Elle semble si belle, si pure, on dirait une fée. Florence est dans son lit, pense à lui. Elle est surtout hypnotisée par son visage, son sourire qu'il a. Elle se demande s'il est sérieux. Se dit sûrement pas, c'est un garçon. Et puis, lui ne doit plus penser à moi. Il doit l'avoir oublié. Et c'est difficile de l'oublier, lui. Le lendemain, Edmond se réveille, la langue pâteuse est tout excitée. Soupire et se dit, je suis bête. J'ai trouvé la pochette. Il prend la pochette sur la table de nuit. Je peux la voir quand je veux, mais voudra-t-elle me revoir? Et pourquoi ne voudra-t-elle pas? Soupire et se dit qu'elle est belle. Une demi-heure plus tard, il rentre au salon pour déjeuner avec son père. La pièce est grande, meublée Louis XV. Porte-fenêtre qui donne au parc, deux porte-fenêtres, cheminée de marbre. Il va à son père.
Bonjour. Le père lui dit, je croyais que tu allais te lever pas avant 14 heures, toujours à faire la fête.
Le fils s'assoit en face de lui. Son père, Armand, a 52 ans. Il est grand, mince, sec, cheveux grisonnants, épais, tête très osseuse, yeux bleus profonds. Il porte un costume marine. Edmond se sert son café.
Le père lui demande, qu'as-tu fait hier au soir?
Je suis allé chez Alain Villiers,
le père fait. Ah, le jeune homme bien sérieux, lui au moins. Tu t'es amusé?
Oui, très bien. En fait, très bien. J'ai rencontré une jeune fille,
le père lui dit. Comme d'habitude, rien de bien nouveau. Tu les ramasses à la pelle et après tu les jettes. Pas très sérieux tout ça. Tiens, passe-moi cette délicieuse confiture de bambou.
Et lui passe et lui dit,
tu t'amuses trop et tu es pas très sérieux.
Le fils lui dit, je t'assure père, c'est une fille de très bonne famille et qui est très sérieuse.
Le père lui dit, si elles sont toutes de très bonne famille, mais cela n'empêche pas qu'elles soient des chippies. Tu vois, des chippies dévergondées.
Le père lui dit, non, pas celle-là, je t'assure,
elle est très bien et sérieuse. Une fille sérieuse ne va pas avec un garçon comme toi.
Le fils sérieux lui demande, et pourquoi?
Tu le sais très bien.
Et Montparnasse lui dit,
vous ne me connaissez pas, père. Je peux être sérieux, très sérieux.
Le père lui dit, si tu le sais, tu travaillerais avec moi.
Edmond lui dit, pourquoi faire? Tu travailles déjà. Un dans une famille, cela suffit. C'est bien, ça. Mais lorsque je ne serai plus là, j'aviserai.
Ton père lui dit.
Et tu te dis sérieux.
Ton fils lui dit, mais...
Oui, père, je suis très sérieux. Et... Je t'assure, je travaillerai. Et puis, si j'aime une jeune fille, si j'aime cette jeune fille, c'est vraiment du sérieux.
Tu vas l'aimer combien de temps?
Toujours.
Et elle?
Je crois que oui.
Eh bien, aimez-vous bien, pauvre petit.
Elle n'est pas pauvre.
Qui est-elle?
Elle est très bien.
Que fait son père?
Je ne sais pas, mais elle habite avenue Foch.
Le père lui dit pour le mettre en colère.
Avenue Foch, il y a aussi des gens de maison qui y habitent.
Tu es ridicule.
Elle s'appelle comment cette fille?
Florence.
Quoi?
De...
Ah, oui, Courcelles.
Le père parlit.
Il reste une seconde sans bouger. Dit, bon, eh bien... Je me sauve.
Se lève et sort de la pièce. Sans rien dire à son fils. Le père, une fois dans son bureau, qui se trouve à Paris, boulevard Saint-Germain, dans un immeuble du 19e, où il a mis son siège. Son bureau est meublé Louis XVIII. Il se dit,
le monde est petit. Mon fils a rencontré la fille de celui qui m'a ruiné il y a de cela peut-être 20 ans. Il m'a ruiné, mais je m'en suis sorti. Et maintenant, je vais peut-être me venger. Oui, mon fils a séduit la fille et l'a laissé tomber. Ou peut-être mieux. Peut-être mieux. Il l'épousera, et là, j'aurai à sa merci le père.
Germain de Courcelles est au salon. Il lit son journal. Sa fille est dans sa chambre. Elle se repose après la soirée d'hier.
On a frappé à la porte.
Oui.
C'est la domestique qui lui dit, monsieur, il y a un jeune homme qui désire voir mademoiselle Florence.
Le père est surpris, dit, qui est-ce?
Domestique lui porte la carte.
Le père la prend et lui dit, je ne vois pas.
Elle est tellement connue de monde qu'il ne se souvient plus.
Faites venir ce jeune homme.
Bien, monsieur.
Et le domestique se retire.
Entrez.
Et entre Edmond, qui a un petit sac en papier.
Le père est surpris.
Monsieur, vous désirez?
Edmond s'approche et lui dit, monsieur, je m'appelle Edmond Marcoche et j'ai fait la connaissance de votre
fille hier au soir, j'aimerais la voir. Le père lui dit, ma fille ne peut vous recevoir. De quoi s'agit-il? Aimant est triste et lui dit, elle ne peut pas me recevoir seulement 5 minutes.
Non, c'est pourquoi.
Edmond Penaud lui dit, je suis venu vous apporter une pochette qu'elle a oubliée à la soirée. Il la lui tend. Le père lui la prend.
Merci, monsieur.
La porte s'ouvre et apparaît Florence. Le père est furieux. Edmond heureux. Le père dit,
tu aurais pu frapper.
Elle lui dit, pardonnez-moi. Elle est tout excitée en voyant Edmond. Edmond, tout ému, lui dit, je suis venu vous rapporter votre pochette. Merci, le père lui dit,
c'est moi qui l'ai.
Il la lui tend, elle la prend. Merci, monsieur. Je suis très étourdie. Je vous ai dérangé. Je suis confuse. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.